Mémo, ne pas oublier, grâce aux plaques commémoratives notamment ou aux monuments qui leur sont érigés, grâce à ces chemins de mémoire, pour reprendre le titre de ce bel inventaire qui répertorie les hommages dans toute la France, grâce à cette journée qui leur est dédiée depuis 14 ans, le 25 septembre, journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives. Mémo, ne pas oublier leurs engagements, leurs sacrifices, leur destin, raviver cette mémoire dont on est tous dépositaires, même si elle semble appartenir déjà aux livres d'histoire. Quand ils en font état, c'est pas toujours le cas. La mémoire des harkis, et avec elle, d'un certain nombre de silences, de tabous, de non-dits autour de la guerre d'Algérie. Il y a des histoires dont il est plus aisé de ne pas se souvenir, vous conviendrez. Des histoires qu'on préfère relire avec un prisme politique plutôt que de s'y confronter. Des histoires d'hommes trahis, abandonnés, massacrés. Des histoires qui valent bien quelques catalyseurs de mémoire. Ces plaques, monuments ou journées nationales qu'il est décidément difficile de passer sous silence, d'ignorer ou de balayer d'un revers de main. Couvrez ces riens que je ne saurais voir. Ce matin, on en aura parlé. Mémo, ne pas oublier.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est de celle qui ravive nos mémoires jeunes romancières. Son troisième roman, Nos richesses, sensation de cette rentrée d'automne, est en lice pour les prix Goncourt, Renaudot, Médicis. Un livre en forme d'hommage à un lieu, la librairie des vraies richesses à Alger, et à Edmond Charlot, l'homme qui l'a fondé il y a plus de 80 printemps. Un livre comme un appel à la jeunesse aussi. Bonjour Kauter Adimi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Comment vous faites-vous pour ne pas oublier?
Alors je pense que pour ne pas oublier, il faut écrire des livres, il faut imprimer des livres, il faut lire des livres. Et la question de la mémoire, elle est assez centrale dans nos richesses. Parce que moi, j'ai eu envie de raconter l'histoire des miens, l'histoire des Algériens entre les années 30 et les années 60. Et pour la raconter, j'ai utilisé le pronom « nous », ce qui n'est pas du tout anodin. C'est que je n'avais pas envie de mettre de distance entre l'histoire et la grande histoire et l'histoire plus petite.
Ça veut dire que vous êtes dépositaire d'une mémoire d'événements que vous n'avez pas vécu, somme toute?
Alors, dépositaire a peut-être un grand mot, mais en tout cas, j'ai eu envie de la raconter, cette histoire, l'histoire des miens. J'ai eu envie de raconter l'histoire de mon grand-père. Alors, c'est un chapeau quand je dis l'histoire de mon grand-père, parce qu'à l'intérieur, il y a d'autres histoires, des petites histoires que j'ai inventées, des histoires qu'on m'a racontées. Et je pense qu'il faut prendre la plume et raconter soi-même nos histoires, sinon l'histoire est confisquée. Et en France, c'est vrai qu'on commémore énormément l'histoire. Alors, on commémore pas toutes les histoires. Moi, il y a plein d'histoires qui concernent Algérie qui ne sont pas commémorées en France, et il y a énormément de plaques, etc. C'est pas forcément le cas en Algérie. On a de gros livres d'histoire au lycée, mais on n'a pas énormément de plaques. On ne connaît pas toutes les petites histoires de l'histoire d'Algérie, et j'ai eu envie de raconter ces petites histoires qui, mises bout à bout, permettaient d'expliquer en quelque sorte, une partie de la grande histoire.
Mais alors justement, les harkis, par exemple, ces Algériens qui ont combattu pour la France au moment de l'indépendance de l'Algérie, qui ont longtemps été oubliés par l'histoire officielle, délaissés par les pouvoirs politiques, comment ils sont vus en Algérie, Kauter Adimi?
Alors, les harkis, ils sont vus comme des personnes qui ont choisi la France, donc des personnes qui ont étaient des traîtres, c'est vraiment le terme. Alors d'ailleurs, le mot harki est un mot qui a été choisi entre guillemets par la France pour les désigner, qui est pas du tout un mot français. On leur a pas donné un mot français à ces personnes-là. Les harkis désignent, ils sont considérés comme ceux qui ont à un moment donné eu un choix à faire entre la France et l'Algérie, que l'ont fait. Et puis ça renvoie aussi à une autre partie de l'histoire, qui était ceux qui avaient des pouvoirs politiques importants dans certains villages et dans certaines villes, et qui du coup ont fait certains actes et commis certains actes à l'égard des Algériens qui ont été très durs de par leur pouvoir. Alors après, aujourd'hui, les harkis, c'est des gens qui étaient là avant 62. Donc vous voyez, il y a eu énormément d'années qui sont passées depuis, d'autres générations. Donc ça renvoie aussi à une partie de l'histoire qui est dans le passé.
Cette guerre d'indépendance, en fait, vous l'évoquez dans votre livre Nos richesses, puisque vous survolez 25 ans de la vie d'un homme entre 1935 et 1961. Il y a un passage de votre livre qui, moi, m'a particulièrement marqué. C'est celui où vous évoquez le massacre du 17 octobre 61. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là à Paris?
Alors ce jour-là, il y a des Algériens qui sortent dans la rue pour protester contre le couvre-feu qui a été mis en place en France et à Paris. Un couvre-feu qui ne concerne que les Nord-Africains, comme on disait. Et donc vont sortir dans la rue des Algériens, des femmes, des hommes, des adolescents, des personnes plus âgées, qui vont manifester pacifiquement. J'insiste sur pacifiquement puisque Quelques semaines après le 17 octobre 61, des policiers français vont écrire une lettre anonyme pour protester et dire qu'aucune arme n'avait été trouvée sur les Algériens. Et des policiers, des brigades composées d'ailleurs de Harki vont réagir de manière extrêmement violente et vont jeter des Algériens dans la Seine, vont poursuivre des Algériens partout dans Paris, dans le 17e et dans d'autres arrondissements de Paris, dans le métro, etc.
On vous l'a raconté, cette histoire ?
Alors, cette histoire, on ne me l'a pas racontée parce que moi, je n'ai pas du tout de famille qui était en France en 61, en tout cas à ce moment-là. Par contre, j'ai lu énormément de livres d'histoire, d'articles. Enfin, j'ai une bibliographie à la fin de mon livre sur le sujet. J'ai lu notamment cette lettre des policiers républicains, comme ils s'étaient nommés, qui est très belle, et où eux dénoncent ce qu'ils considèrent avoir été un crime. Et d'ailleurs, quand on parle de mémoire, moi je suis toujours un peu étonnée quand je vois que certains articles de presse au sujet de mon livre, lorsqu'ils parlent de ce chapitre de mon livre, évoquent Sharon. Alors il y a vraiment un oubli, je pense, de ce qui s'est passé. Ce qui est très étrange, parce que autant que quand ça se passe en Algérie, je veux bien qu'en France, on n'ait pas conscience, parce qu'on est loin et que ça ne concerne pas tout le monde et que les journaux d'époque ne disaient pas tout, mais quand ça se passe à Paris, bien après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, qu'on puisse oublier qu'on a jeté des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'Algériens, dont certains étaient très jeunes, dans la Seine, que certains ont été pendus à Vincennes, et qu'on fasse un amalgame avec quelque chose qui s'est passé après, puisque la Seine, c'est en 61, et que Sharon, c'est en 62. Je trouve que c'est révélateur de la manière dont aujourd'hui on comprend la guerre d'Algérie et ce qu'on en sait.
Lorsque bien des années plus tard, nos grands-parents nous verront quitter le pays pour l'autre rive, ils nous diront de faire attention. Les Français sont durs et nous ne comprendrons pas car nous aurons oublié. C'est ce que vous écrivez, Kawtar Hadimi, en conclusion d'une description saisissante de ce massacre du 17 octobre. Vous l'aviez oublié, vous, en arrivant en France ?
Alors, je l'avais oublié, oui et non. C'est-à-dire que je connaissais l'histoire. Je connaissais l'histoire parce que j'ai des chapitres d'histoire de l'Algérie qu'on étudie au lycée. Après, ce livre, moi, m'a vraiment permis de me replonger dans l'histoire d'Algérie et de sortir d'une vision de l'histoire d'Algérie très académique, racontée uniquement par l'Algérie, et d'aller à la découverte des petites histoires. Par exemple, moi, Sénat, qui est poète, né en Algérie avant l'indépendance et qui est mort en Algérie, qui a toujours vécu en Algérie, qui a demandé deux ou trois fois la nationalité algérienne sans jamais l'obtenir, qui a été membre du FLN, qui a fait partie du premier pouvoir post-indépendant. Moi, son histoire, je la connaissais à peine. Et en écrivant ce livre, ça m'a permis vraiment de me replonger dans l'histoire d'un homme qui a choisi l'Algérie dès le début, qui a été, avec ses mots, qui a été un combattant pour l'indépendance de l'Algérie et qui a été oublié après l'indépendance, après Ben Bella, et qui est mort assassiné en Algérie. Vraiment, et ces petites histoires, qui ne sont pas les histoires qu'on nous raconte dans nos livres d'histoire, écrire ce livre m'a vraiment poussé à aller m'interroger sur les destins de ces personnes-là. Et ça m'a permis aussi d'aller discuter avec mon grand-père, ce que je n'avais jamais fait de manière très étrange. Finalement, on pourrait penser que, on dit toujours, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Je ne suis pas sûre que ce soit très vrai quand, 50 ans plus tard, la situation du pays est telle qu'on a vécu 10 ans de terrorisme, on est dans une situation économique très compliquée, etc. On n'est pas dans la glorification en permanence de cette indépendance, de cette guerre-là, parce qu'en fait, on a vécu d'autres choses assez dures. Et en fait, je suis retournée voir mon grand-père, j'en ai discuté avec lui. J'ai toujours su, par exemple, que mon grand-père parlait allemand, ce qui est très étrange, au fond. Mon grand-père n'a jamais été à l'école, il parle pourtant allemand. Et je savais qu'il parlait allemand, j'ai choisi allemand au lycée parce que mon grand-père parlait allemand, que je trouvais ça assez marrant de pouvoir discuter avec lui dans une langue qui était totalement étrangère au pays. Mais je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment il avait appris l'allemand. Et du coup, on a parlé de la Seconde Guerre mondiale, de lui, quand il a rejoint, c'est un grand mot puisqu'il n'avait pas vraiment le choix, l'armée française pour combattre. Et on a parlé de tout ça, et toute cette histoire est ressortie, et je me suis dit, mais il faut absolument que je raconte l'histoire des miens, et il faut que je me l'approprie, cette histoire, et il faut que ça devienne un roman, parce que le roman permet justement d'éviter l'écueil des additions de toutes les dates et de raconter des moments qui sont importants.
Et si c'était ça, nos richesses, vos richesses, les petites histoires, pour reprendre le titre de votre roman, Kawtar Hadimi ?
C'est les petites histoires qui, mises bout à bout, font la grande histoire. C'est la petite histoire d'un jeune homme, Edmond Charlot, qui, à 21 ans, ouvre le 3 novembre 1936 une librairie, maison d'édition, bibliothèque dont il est très fier. C'est un local de 28 mètres carrés qui va accueillir les plus grands de son époque.
Celle qui est riche dans cette émission, au point parfois d'en devenir indigeste, c'est la culture et son actualité nourrissante un peu lourde. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 26 septembre ?
Par ce qu'on croit être obscur, ce qu'on croit être incompréhensible, on touche à des choses.
Passage à l'Actoral. Marseille inaugure aujourd'hui la 17e édition d'Actoral, festival des écritures contemporaines qui mêle art visuel, théâtre et danse. De la Friche, la Belle de Mai au théâtre de la Joliette, la cité phocéenne s'apprête à accueillir une centaine de performances en 20 jours. On attend par exemple Ergonomics, la création de l'Espagnol Rocío Berenguer, ou Rêve et folie de l'envoûtant Claude Régis. Chrétien, donc, l'Institut du Monde Arabe à Paris ouvre aujourd'hui les portes de Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire. Exposition événement sur l'héritage politique, religieux, artistique de la communauté installée au Proche-Orient, au programme des trésors d'Égypte, du Liban, de Syrie ou de Jordanie, histoire d'en savoir plus sur notre passé commun pour mieux appréhender notre futur.
L-U-T-T-E, j'ai jamais été eux. Qu'ils aillent tous faire têter les yeux dans le miroir et mon adversaire. Darkness total.
DC's remonte sur le ring. Le rappeur français de 39 ans, dont 20 au service du rap game, vient de mettre en ligne le beau clip du morceau Lutte. Production musclée, punchline ciselée, noir et blanc léché. La vidéo tournée à Los Angeles annonce le lancement de sa tournée Pacific Tour qui débutera vendredi à Boulogne-sur-Mer et passera par l'Olympia le 6 décembre prochain. Bien, bien, bien.
Ne soyons pas hypocrites, on est là pour ça. Si on veut pas de prix, on sort pas à la rentrée. Vous dire que je pense pas au prix, alors autant sortir au mois de novembre. Bien sûr, j'y pense.
Joli doublé pour Véronique Olmy, déjà récompensée par le prix du roman Fnac. Il y a 15 jours, la romancière de Bakita a reçu hier le prix du patrimoine 2017, sacrant un texte qui dit le monde tel qu'il va et porte un regard solidaire sur la société. Portrait d'une esclave affranchie, devenue sainte. Le roman est toujours en lice pour le Féminin et le Goncourt, notamment chaud devant. La jeune romancière Kauter Adimi, invitée de Boomerang ce matin, vous aussi, vous sortez des livres à la rentrée pour pouvoir avoir un prix.
Ouais, elle a raison, Véronique. Évidemment qu'on pense au prix, évidemment qu'on est content lorsqu'on est sur des listes de prix. Oui.
Votre livre Nos richesses est donc sur les listes du Goncourt, du Renaudot et du Médicis. Un livre où vous nous prenez par la main dans les rues d'Alger pour découvrir, vous nous le disiez, une librairie qui se trouve aux deux bis de la rue Amani, ex-rue Charras. Quand et comment est-ce que vous l'avez découvert, ce lieu ?
Alors, je l'ai découvert vraiment par hasard il y a 2 ou 3 ans, 2 ans et demi. Et en fait, je me suis arrêtée parce que j'ai été interpellée par une phrase qui est inscrite sur la façade du 2 bis. Un homme qui lit en vaut deux. Et évidemment que ça m'a interpellée. J'ai regardé à travers la vitre et j'ai vu le portrait d'Edmond Charlot qui est accroché, qui est toujours accroché dans le lieu. Edmond Charlot, pour moi, qui a fait des études de lettres, c'était simplement une phrase. Edmond Charlot, premier éditeur d'Albert Camus.
Oui.
Ce qui aurait pu, en fait, me pousser vraiment à ne pas m'y intéresser plus que ça, parce qu'on a fait tellement de livres sur Albert Camus, on parle tellement d'Albert Camus et tout. Même aujourd'hui, c'est devenu très à la mode pour les politiciens de citer Albert Camus. Donc, il y a quelque chose qui, pour moi, était plutôt de me dire non, surtout ne pas y aller. Et en même temps, j'ai vraiment été attirée par cette photo de cet homme qui avait un demi-sourire. Et donc, j'ai lu un livre sur Edmond Charlot, qui est une interview entre lui et Frédéric Jacques Temple, qui est un poète. Et j'ai eu très envie de découvrir sa vie et je me suis plongée dans ses archives, puisqu'il a été il a découvert Camus, ce qui est déjà assez exceptionnel en soi, mais il a été aussi autre chose. Il a été un grand éditeur pendant le XXe siècle. Il a eu une pensée très moderne pour l'époque, qui était de se dire qu'il fallait dépasser le moule d'Alger et publier une littérature méditerranéenne. Il a imprimé, republié Vercors après les éditions de Minuit. Il a publié Saint-Exupéry, Gide, il a été à la conquête de Paris. Enfin...
Mais justement, ce qui est dingue, c'est que vous ayez mis si longtemps, en réalité, pour la découvrir, cette librairie mythique où sont passés Camus, Sénac, Jules Roy, Jean Amrouche, Emmanuel Robles, mais aussi une maison d'édition, vous le disiez, qui a publié Saint-Exupéry, Gide ou Vercors. Pourquoi est-ce que ce lieu, il a été si peu mis en valeur, en fait ?
Alors, il est mis en valeur, entre guillemets, au sens où il n'a pas fermé, où Edmond Charlot a toujours sa place dans le lieu, puisque sa photo est là, où il y a une plaquette qui résume l'histoire. Après, c'est 28 mètres carrés, coincé entre un coiffeur, un restaurant, etc. Vous avez raison, je suis passée devant une centaine de fois sans m'arrêter, sans faire attention, et je pense vraiment qu'on peut passer devant sans y faire attention, tellement le lieu est assez discret. Ensuite, parce que il est clairement oublié, mais il est oublié, tout comme Edmond Charlot est oublié aujourd'hui en France, alors que ça a été un grand éditeur. Et j'ai des étudiants du master du livre ici en France qui me disent qu'ils n'ont jamais entendu parler d'Edmond Charlot. Or, il a eu un impact assez fort dans l'édition. C'est lui, par exemple, qui a été le premier à penser à une quatrième de couverture. Donc, il a marqué quand même l'histoire de l'édition. Il a lancé une revue avec le soutien de De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, qui soulevait la revue qui remplacerait la NRF à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça a été quelqu'un qui a fait des choses, que ce soit en France et en Algérie, dans l'édition assez incroyable et qui a été oublié partout, en fait.
Et vous dites que le lieu peut disparaître aussi. Et vous imaginez la disparition de cette librairie remplacée par une boutique de beignets.
Oui.
Ce qui pend au nez de toutes les librairies en Algérie.
Ce qui pend au nez de beaucoup de librairies dans le monde, je pense. Et moi, je voulais justement mettre l'accent là-dessus, parce qu'il y a une autre librairie qui avait été menacée de disparition, où j'allais beaucoup, rue Didouche-Moulad, et j'ai imaginé la fermeture de ce lieu parce qu'il ne devenait plus rentable. Et se pose vraiment la question pour moi de la rentabilité des lieux de culture. Moi, je pense que s'il y a 3 adhérents à cette bibliothèque, ça suffit pour... le lieu mérite de rester ouvert. Mais j'imagine que dans un lieu, dans un contexte économique compliqué, on cède cet endroit à un industriel privé qui dit qu'on vendra toujours plus de richesses, de beignets que de livres, donc vendant des beignets à la place.
Précisément, Kaoutar Adimi, quel lieu est-ce que c'est pour vous, une librairie ?
Une librairie, moi, c'est là où tout commence pour moi, en fait. Tout a commencé dans une librairie. Moi, j'ai commencé à aller dans la librairie à 4 ans avec mon père. J'y allais une fois par semaine, que ce soit en librairie ou en bibliothèque. La librairie, c'est là où vous pouvez vous réinventer, c'est là où vous pouvez rêver, c'est là où vous pouvez... vous évadez, on sait à quel point les livres sont importants. On connaît cette histoire maintenant en Syrie de ces jeunes qui ont créé une bibliothèque sous les gravats, qui sont allés récupérer des livres partout et qui ont créé une bibliothèque clandestine. On sait à quel point le livre peut à la fois être source d'évasion et peut être dangereux pour tous les pouvoirs politiques.
C'est intéressant, parce que là je vous écoute et je vous ai lu aussi, et ce que vous nous racontez à travers cette disparition potentielle de la librairie Nos Vraies Richesses, c'est aussi le récit d'une ville prise dans le mouvement de l'histoire. Et en fait, en lisant votre livre, j'ai l'impression que vous êtes nostalgique d'une époque.
Alors, je ne suis pas nostalgique des années 30, parce que si moi j'avais vécu dans les années 30, je serais ce qu'on appelle indigène, je n'irais pas à l'école, je serais illettrée, aujourd'hui je n'aurais pas écrit des livres,
c'est
et je ne serais
troublant.
Pas là. Donc je ne suis pas nostalgique de cette époque, vous pouvez me croire.
Oui.
Voilà, moi, une grande partie de ma famille n'est jamais allée à l'école parce que justement ils sont nés dans les années 30, 40 ou 50. Pas du tout en fait. De nostalgie en tout cas pour l'époque. En revanche, je pense qu'il s'est passé des choses incroyables aux 2 bis de la rue Hamani. Que ce qui est incroyable, c'est qu'en plus ce 2 bis... est toujours là. Il est là malgré l'indépendance, malgré les années terroristes, malgré toutes les politiques culturelles qui sont enchaînées, qui auraient pu ne pas avoir envie de conserver ce lieu. Mais Edmond Charlot a créé quelque chose à cet endroit en 1936, qui a réussi à survivre à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre d'Algérie, qui a réussi à survivre à tellement de choses que je trouve ça extrêmement beau. Je trouve qu'on a réussi à créer un lieu de partage, de culture, au 2 bis, que certes ça a été créé par quelqu'un qui à un moment donné vivait dans une colonie. Mais Edmond Charlot portait une parole qui n'était pas du tout coloniale. Lui, d'ailleurs, il l'a portée si peu que l'OAS a bombardé 2 fois sa maison d'édition. Enfin, en 61, il l'a portée si peu que lui a été assez courageux pour publier un texte sur les massacres de Sétif. Alors il a un peu masqué les dates parce qu'il savait que sinon le texte serait saisi. Mais c'est quelqu'un qui, en 1936. Moi, j'ai en tout cas adoré rencontrer Edmond Charlot, que ce soit en 36 ou aujourd'hui. Je ne suis pas nostalgique d'une époque, je ne peux pas l'être, c'est fondamentalement impossible. Mais en tout cas, je suis nostalgique de l'envie de faire. Et je pense qu'Edmond Charlot peut être un exemple, comme Abdallah est un exemple pour l'IAD. Edmond Charlot, c'est le passeur, on l'appelait le passeur de livres, et il a passé ses livres, ce lieu à Abdallah que j'ai imaginé, et Abdallah fait la même chose avec l'IAD, en tout cas, essaye de faire la même chose avec l'IAD. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est d'avoir des exemples comme ça, de les connaître et de se dire qu'à un moment donné, quel que soit le contexte dans lequel on évolue, il est possible de ne pas se soumettre au quotidien ou de ne pas se soumettre aux politiques. C'est ce que fait Abdallah en refusant la fermeture de la librairie, en restant planté face au lieu qu'il a gardé pendant des années. Il ne se soumet pas à l'ordre établi et tente de changer les choses.
Alors on va continuer à parler de mots, de livres, d'espoir et de résistance aussi, de mémoire, avec Aretha Franklin, tiens, cette si belle version de Over the Rainbow. Vous êtes sur France Inter avec la romancière Kawtar Adimi. Vous écoutez Boomerang.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and those dreams that you dare to dream, they really do come true. Someday I wish upon a star, and I'll wake up where the clouds are far behind me. Oh yes, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you find me. Gonna be somewhere over the rainbow, oh, where pretty little bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Then oh why can't I?
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle est tournesol, soleil, arc-en-ciel, les yeux verts, revolver, un mélange de bleu sérieux, de fermeté violette, de douceur indigo, le jaune, le rouge, l'orange, c'est qu'elle rayonne ce matin toute de gris vêtue. Pourtant, la jeune romancière Kawtar Adimi, invitée de Boomerang pour son très beau troisième roman Nos Richesses, un roman à deux voix où vous inventez le journal d'Edmond Charlot et où on suit un jeune garçon algérien émigré en France qui revient en Algérie pour effectuer un stage ouvrier. Ce stage, il consiste à vider la librairie, à jeter des livres. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y a de pire que ça ?
Je crois pas qu'il y ait quelque chose de pire que ça. Hein. C'est dramatique, effectivement. Il a besoin de faire un stage ouvrier, il n'en trouve pas en France. Et du coup, l'ami d'un ami de son père lui dit, ah tiens, j'ai quelque chose pour toi. Un ami vient de racheter une librairie, il faut la vider. Et vas-y, ça va être très facile, tu vides les lieux, tu repeins les murs. Et Yad arrive un soir et en fait, ça devient une épopée. Il n'arrive pas à faire son travail parce que Abdallah, le dernier gardien des lieux qui a été mis à la porte par le nouveau propriétaire, l'en empêche, alors pas physiquement, mais en lui racontant l'histoire du lieu, en le poussant à se questionner, en l'emmenant dans tous les cafés d'Alger, enfin on rentre vraiment dans ce quartier d'Alger, dans ce quartier du centre-ville, et Eliade commence à se poser des questions sur ce qu'il est en train de faire, donc essaye de trouver une manière de ne pas jeter les livres, mais plutôt de les offrir.
Et puis quand il essaie de recycler ses livres en les donnant à une école, bon, on lui dit que c'est pas possible.
On lui dit que c'est pas possible, parce qu'il faut pas oublier que nous sommes un pays très bureaucratique, que ça on l'a arrêté de la France, je pense, et en tout cas, on aime bien les papiers. Et donc, on lui dit il faut écrire un courrier, on peut pas accepter des livres comme ça, il faut écrire au ministère de l'éducation, puis ça va passer en commission, et ils vont vous répondre parce que on ne sait pas ce que sont ces livres, on ne sait pas qui les donne, on ne sait pas qui les a écrits, qui les a publiés, qui les a imprimés, on ne sait pas tant de choses, donc on ne peut pas accepter des livres.
La littérature, Kaoutar Adimi, c'est un contre-pouvoir qui fonctionne.
C'est un contre-pouvoir qui fonctionne, puisqu'on ne cesse d'enfermer des écrivains partout dans le monde, qu'on ne cesse de s'attaquer à ceux qui écrivent, ceux qui font des films, ceux qui chantent. Donc évidemment que c'est un contre-pouvoir.
Et c'est ainsi que vous expliquez cette relation si complexe au livre qu'à l'Algérie?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas sûre que ce soit simplement une question de contre-pouvoir. Je pense qu'il y a une question de volonté politique et économique aussi. Il faut mettre en place une politique du livre qui soit pas celle qu'on a aujourd'hui. Et ça, ça demande une vraie réflexion, une envie, une motivation qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a pas en Algérie. Mais, heureusement, il y a d'autres contre-pouvoirs qui sont des éditeurs. Enfin, moi, mes éditeurs, Barzac, je considère qu'ils ont une politique du livre qui est intéressante puisqu'ils publient des livres qui sont un prix abordable, puisqu'ils organisent des rencontres littéraires. Il y a les ateliers sauvages de Wassila Tamzali qui organisent aussi des manifestations culturelles. Il y a énormément de choses qui se font et qui ne sont pas organisées par l'État, qui sont des formes de contre-pouvoir.
Ce qui est passionnant, moi, je trouve, c'est que votre amour des livres, vous nous le transmettez à travers des personnages qui, eux, n'aiment pas forcément lire et qui, pour autant, prennent leur défense au livre. Et j'aimerais lire un extrait de Vos Richesses où vous faites parler l'ancien gardien de ce temple littéraire. Peu de gens le savent, mais je n'aimais pas lire et je ne suis toujours pas certain d'aimer cela aujourd'hui, mais j'aime être entouré de livres, même si j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à lire. Durant la colonisation, il n'y avait qu'une école pour les Français et aucune pour nous. On m'a appris l'arabe à la Zouïa. Et le français, ce n'est arrivé qu'après l'indépendance, grâce à ma femme qui me l'a enseigné. Elle ne s'est jamais moquée de mon ignorance. Elle a pris le temps, patiemment, de m'initier à la lecture. Il a fallu que je me batte longtemps contre moi-même pour ne plus être intimidé par les mots imprimés. Peut-être que pour les gens, pour moi, lire n'est pas naturel. Un livre, ça se touche, ça se sent. Il faut pas hésiter à corner des pages, à l'abandonner, à y revenir, à le cacher sous l'oreiller. Je sais pas faire ça. Aujourd'hui encore, mon premier réflexe, lorsque j'en aperçois un, c'est de l'arranger. Un livre, ça se touche, ça se sent, Kaoutar Adimi. C'est quelque chose de vivant, en fait.
Oui, alors moi, je ne voulais pas du tout avoir des personnages qui étaient férus de littérature, amoureux des livres. Enfin, c'est pas un film hollywoodien. Donc, Yad, à la fin, ne prend pas les livres pour les lire. Voilà, il en prend quelques-uns pour les offrir à son amoureuse, mais ça s'arrête là.
Mais vous, quand est-ce que vous avez commencé à les sentir, à les toucher?
Mais très tôt, très tôt, parce que j'allais. Enfin, moi, mes parents nous ont quand même communiqué le goût du livre, l'amour du livre. Sans avoir eu une bibliothèque folle à la maison, on avait quand même des livres, donc très tôt, et c'est pour ça que Abdallah, lui, en l'occurrence, tient ce discours-là, parce qu'il ne peut pas avoir un rapport au livre qui est, entre guillemets, normal. Il a été privé de livres, il n'est pas allé à l'école, donc il a un rapport au livre qui est celui de quelqu'un qui tout d'un coup se retrouve, imaginez, enfin, il n'a jamais de livre, d'un coup, il se retrouve gardien d'une bibliothèque, donc il est entouré de livres, et pour lui, le livre, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de fragile. Il faut s'imaginer l'histoire de Abdallah avec petit garçon. Il voit qu'il y a une école, mais c'est une école pour les Français qui, eux, ont des livres. Donc il y a un ordre inversé pour lui. Et d'un coup, il se retrouve dans cet endroit magnifique, magique même, avec des livres qui ont été publiés, parce qu'il y a toujours des livres d'Edmond Charlot, publiés par Edmond Charlot dans cet endroit, donc des livres qui ont été publiés dans les années 30, des livres incroyables, et forcément il les touche avec respect, il n'ose pas les prendre, il n'ose pas corner les pages, il ose à peine les lire, et un jour, Yad, 20 ans, qui lui donc, a grandi dans l'Algérie indépendante, qui est allé à l'école, qui en plus vit en France, donc entouré de livres, arrive et commence à piller cet endroit, à tout jeter par terre. Ces livres qu'il a mis avec. Ces livres où Abdallah a passé. Enfin, cet endroit où Abdallah a passé des années à tout ranger et à prendre soin de ses ouvrages.
On parlait de littérature, de livres comme contre-pouvoir, Kaoutar Adimi. Et j'aimerais qu'on termine cette émission par un texte que vous avez écrit. Je vous ai demandé d'écrire un texte. Et c'est un texte qui touche à la littérature.
C'est difficile de savoir ce que l'on retient d'une rencontre avec Ashley Erdogan. Surtout quand elle a lieu sur un plateau télévisé et qu'elle ne dure qu'une vingtaine de minutes. L'image est là, gravée dans la tête. Une robe noire, de l'assurance, de la fatigue bien sûr, des mots surtout, des mots justes. Il faut parler d'Ashley Erdogan tous les jours, sur toutes les radios, et ce jusqu'au 31 octobre, date de son procès. Il faut parler d'Ashley Erdogan tout le temps, même quand ce n'est pas le sujet, parce que dans un mois elle sera peut-être enfermée à vie. Le pire serait de se taire. Ne pas se taire justement. Depuis une semaine, des Algériens s'expriment au sujet d'une polémique qui n'a eu de cesse d'enfler. Le sujet ? Le commissaire du Salon du Livre d'Alger a déclaré sur une chaîne de télévision qu'il regrettait la censure du livre « Comment battre sa femme » d'un auteur saoudien. Et d'ajouter, alors c'est traduit, « Je vous jure que parfois ce livre est utile, parfois tu frappes ta femme et le lendemain tu te dis qu'elle a été percutée par un camion. Avec ce livre au moins, si on frappe, on le fait avec douceur. » Alors depuis, les réseaux sociaux s'enflamment, des écrivains appellent au boycott et, miracle, le ministre de la Culture a réagi, parlant d'une mauvaise plaisanterie. Le commissaire du Salon du Livre, lui, a publié une lettre de précision, s'excusant s'il a pu choquer. Il faut parler d'Ashley Erdogan, de tous ceux qui par le monde se battent ou tentent de nous battre.
Merci infiniment, Kauter Halimi, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Nos Richesses est publié au Seuil, en France, aux éditions Barzac, en Algérie. Il est en lice, on l'a dit, pour les prix Goncourt, Renaudot, Médicis. C'est une merveille. Et tout de suite, on va retrouver Sonia. De Villers, est-ce que vous m'entendez?
Vous avez mangé le disque?
J'ai complètement mangé le disque.
Comme les manches-disques de quand on était petit, Augustin.
Parce que j'ai été pris par le texte.
Bah, nous aussi.
Nous magnifique aussi. De Kauter.
Bah oui, nous aussi.
Alors du coup, on vous écoute.
D'accord, ok. Et demain, qu'est-ce qu'on fait? On passe un disque? Bah,
évidemment
deux,
qu'on
trois,
passe un disque, c'est pas mon genre.
Retour à la musique.
De couper les disques.
Je vous embrasse. Salut Augustin, à demain.
Bye bye.